Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Vosges.
Amis de Radio Alto, bonjour. Venant du Vercors et habitant les Vosges depuis un an, il vient faire des photos de nature et vient nous en parler aujourd'hui. Bonjour Mathieu Dubois.
Bonjour à l'équipe de Radio Alto.
Alors, première question naturelle, comment devient-on photographe naturaliste ? Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, naturaliste.
Photographe naturaliste me va bien, moi j'ai l'habitude de dire photographe de nature. C'est juste une habitude de langage en fait.
Oui, alors comment devient-on photographe de nature ?
Eh bien, je dirais en aimant la photo et en aimant la nature, il n'y a pas de formation particulière pour devenir photographe de nature.
Il n'y a pas une école ?
Il n'y a pas d'école, il y a des écoles de photographes, il y a des écoles sur la protection de la nature, mais il n'y a pas d'école de photographe de nature.
Autodidacte ?
Oui, totalement.
Comment décide-t-on, par exemple, qu'aujourd'hui, tu vas photographier tel animal ? Comment le matin, tu te lèves et tu dis « qu'est-ce que je vais aller photographier ?» Est-ce que c'est une question que tu te poses, d'ailleurs ?
Alors, c'est une question que je me pose, pas le matin en me levant, mais plutôt le soir en mettant mon réveil. Et en général, c'est des affûts qui sont préparés très longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a une première phase de repérage, et en fonction donc des animaux que je peux observer, de la lumière, parce que c'est un élément important pour la prise de vue, et de la saison, parce qu'il y a des animaux qui sont présents à certaines altitudes, à certaines saisons, et plus ou moins actifs aussi en fonction des saisons. Donc en général, j'ai un affût qui est prévu la veille au soir, je mets mon réveil et j'ai assez souvent une solution de repli en cas de mauvaise météo, de problème de circulation, de temps de trajet à pied un peu long si je me sens trop fatigué, etc.
Un affût mis la veille. Mais alors ça consiste en quoi l'affût ?
Alors l'affût, en fait, moi j'utilise principalement deux types d'affûts. Soit je me trimballe avec une tente d'affût dans laquelle on tient assis, mais pas debout ni couché, que je pose.
Elle n'est pas rouge, je suppose.
En général, elle n'est pas rouge, elle est bien camouflée. En arrivant, soit je suis passé un peu avant et j'ai coupé quelques branches pour dire de pouvoir la camoufler encore plus. Soit sinon, je mets un filet en plus dessus pour pas être vu des animaux et des hommes la plupart du temps. Et sinon, le deuxième type d'affût que j'utilise, c'est des affûts qui sont un petit peu plus construits et que là, dans ce cas-là, j'utilise qui restent en place toute l'année. Certaines espèces,
Des espèces de cabanes dans les arbres, non ?
Mais pas forcément dans les arbres, parce que justement, la prise de vue donc en plongée n'est pas forcément très favorable aux animaux, mais des affûts au sol, voire légèrement enterrés, toujours de manière à être au niveau de l'animal que je photographie, voilà.
Mais alors, comment savoir que l'animal que tu veux photographier est là, quand même ? Ça veut dire qu'avant, il y a une recherche.
Voilà, là, c'est la grosse phase de repérage qui a précédemment, qui peut durer beaucoup, beaucoup plus de temps que la phase de prise de vue, la période de prise de vue, en tout cas. Et comme les animaux, certains animaux sont saisonniers, souvent, la phase de repérage, elle se passe un an avant.
Mais donc là, en ce moment, en Vosges, tu es en phase de recherche, là, en ce moment, puisqu'il y a depuis un an que tu...
Je suis toujours en phase de recherche. Mais bon, après, il y a aussi des matins où je commence en prise de vue, et ensuite, le reste de la matinée ou le reste de la journée, je suis en repérage pour d'autres espèces ou pour la même espèce, mais dans d'autres endroits, etc.
Et petite question un peu matérielle, qu'est-ce qui achète les photos que tu fais ?
Eh bien, tous les clients possibles. Donc, en général, c'est de l'utilisation d'images pour de la presse, quelle qu'elle soit. Et puis, je vends aussi des tirages pour des particuliers ou pour des gîtes, des choses comme ça, des tirages, dans ce cas-là, sur papier pour mettre dans des comme un tableau.
Oui. On peut t'acheter une photo, par exemple.
Tout à fait, oui.
J'allais dire d'un loup, je sais pas, t'as déjà pris un loup ?
J'ai déjà fait des photos de loups, et sur les Vosges par contre.
Ah d'accord. Et alors une fois que la photo est prise, alors qu'est-ce que t'en fais ? Elle est dans l'appareil, tu rentres chez toi je suppose, et qu'est-ce que tu en fais là ?
Alors, elle est dans l'appareil. Il peut y avoir une première phase de tri qui se fait des fois pendant des temps morts, donc à l'affût. Moi, en général, je ne fais pas ça. J'essaie toujours de garder l'œil sur ce qui se passe devant moi parce que c'est au moment où on va regarder ailleurs que l'animal va passer et on risque de louper l'image. Donc après, je rentre. Ben, j'ai mes photos sur des cartes mémoire maintenant. Donc, je décharge ma carte. Et là, commence la partie la moins intéressante pour moi, en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut que je discute plus avec la nature, mais je discute avec mon ordinateur, qui ne m'écoute pas forcément comme je veux. Et en général, comme je prends... Si un animal passe devant moi, je prends beaucoup d'images.
Il peut t'arriver à prendre combien de photos?
Ah ben, ça peut m'arriver de faire...
Par exemple.
Oh, je peux faire un animal exceptionnel dans une lumière exceptionnelle et qui a une attitude exceptionnelle, je peux arriver à faire facilement 300 images en une demi-heure. Et après, le problème, justement, c'est la phase de tri. Sur 300 images, il peut y en avoir 200 qui se ressemblent toutes. Donc, dans ce cas-là, il faut les regarder une par une, les agrandir, les trier, essayer de sélectionner les plus nettes, et jeter les moins nettes, etc.
Pour toi, c'est quoi une belle photo? Pourquoi tu vas garder plus celle-là qu'une autre?
Je devrais répondre que la plus belle photo, c'est celle qu'on va m'acheter.
Ah oui, mais c'est pas forcément celle que tu aimes, toi.
Généralement, c'est pas celle que je préfère, effectivement. Disons que moi, en fait, avec une photo, il y a un moment vécu qui se retrouve pas forcément dans l'image. Il peut y avoir une image d'un animal qui est passé comme ça furtivement, on l'a pas entendu arriver, on a juste déclenché, on a essayé de pas se tromper dans la mise au point, dans la mesure de la lumière, etc. Mais ça peut être de l'opportunisme. Pour moi, elle peut être très très bonne, ça va pas forcément être la photo que je retiendrai.
Oui.
La photo que je retiendrai, bon, c'est difficile d'en mettre en évidence une seule parmi celles que j'ai faites, mais c'est plutôt une image que je vais avoir vraiment pensé,
réfléchi. Oui, parce que la photo
réfléchi.
A une histoire pour
voilà,
toi,
ouais.
Qu'elle n'aura pas pour l'acheteur.
Il y a un avant, non. Il y a pour moi, ça va être l'image pour laquelle il y a un avant. Il y a un pendant, souvent, qui a pu durer longtemps, un animal avec qui je vais avoir passé beaucoup de temps. Et puis un après, ben, parce qu'il va être reparti sans s'être douté de ma présence, en fait. Ça, voilà, pour moi, ça va être une très bonne image, mais ça peut aussi être... Ça peut être une image de renard, par exemple, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui pour moi est... Bon, il y a un affectif qui fait qu'elle me touche plus qu'une autre, quoi.
Alors qu'un acheteur, lui, une petite marmotte qui était facile à prendre, mais qui a une bonne bouille, il est prendre la photo, quoi.
Oui, surtout si elle a une barbe que là dans les pattes.
Et bien sûr, je suppose qu'il y a des animaux qui sont plus durs que d'autres à prendre en photo.
Ah, il y en a, oui, bien sûr. Hein. Oui, sur les beaux, je rêve du lynx, par exemple, en photo, mais pour l'instant, je l'ai pas encore. J'ai croisé sa trace, mais je l'ai pas encore rencontré directement.
La trace dans la neige, je suppose.
Oui, hein. Dans la neige, et puis ouais. Peut-être aussi dans un sol meuble. Ouais, ouais.
Après la pluie,
oui. Après un gros orage. Mais bon, là, ça marque quand même nettement moins, donc j'en suis pas sûr.
Le lynx, c'est ton challenge.
C'est un rêve, on va dire. C'est pas un challenge parce que j'ai pas encore assez les moyens au niveau du temps passé de vraiment m'y consacrer correctement. Mais bon, voilà, le lynx mange des chevreuils. Comme je cherche beaucoup les chevreuils, peut-être que l'opportunité se présentera. Simplement.
Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais déjà pris des photos de loups, alors.
Oui, dans le Vercors.
Dans le Vercors.
Oui, oui.
Ah, ouais.
Ouais.
Mais ça doit être très, très dur. C'est le hasard qui fait qu'on rencontre un loup,
ouais.
Non
ouais, ouais. C'est le hasard. D'un côté, c'est le hasard. Et puis, d'un autre côté, en cherchant... Bon, le jour où j'ai fait une image de deux loups qui me sont passés à une trentaine de mètres, je faisais du paysage. Donc, en plus, j'avais même pas forcément le matériel adapté. Mais disons qu'après, en photo animalière, comme on cherche des animaux qui sont potentiellement la proie de ces super prédateurs, c'est le hasard, mais on a quand même beaucoup plus de chances de rencontrer les prédateurs automatiquement qui les recherchent, eux aussi, quoi.
Je voudrais revenir sur l'affût. Ça peut durer combien de temps, un affût, au maximum, disons?
Du lever du soleil jusqu'au coucher.
Oui.
Donc l'été, ça fait de très longues journées. Il arrive régulièrement que je fasse une petite sieste le temps de midi, comme les animaux. Et puis l'hiver, l'hiver quand il fait pas trop froid, c'est pareil, ça peut être toute la journée, mais bon, les journées en hiver sont un peu plus courtes, quoi.
Là, ça doit être plus dur physiquement, dirons-nous.
Ben oui, l'hiver, il y a plusieurs difficultés, c'est notamment les difficultés d'accès. Souvent, les routes sont fermées un peu plus tôt, un peu plus loin, donc il faut pouvoir accéder à l'affût. Et puis après, il y a le fait de rester dans le froid assez longtemps. Ouais. Ouais.
Et tu prends des photos que des mammifères ou les oiseaux ou les paysages font partie aussi de ton panel ?
C'est faune, flore, paysage. Donc, je m'intéresse à tout. Et puis, c'est aussi une question d'opportunisme commercial, on va dire.
Comment ça, d'opportunisme commercial ?
Eh bien, disons que si je suis sur place, en général, c'est le matériel animalier qui est le plus lourd. Donc, je prends toujours un objectif pour faire du paysage au printemps, en été et en hiver. Au printemps, je prends aussi un objectif macro. Ça ne m'alourdit pas énormément le sac. Et par contre, ça me permet de vendre éventuellement des images en plus, même quand je ne rencontre pas d'animaux.
Bien, nous allons faire une petite pause.
Oui.
Nous recevons aujourd'hui dans le studio Mathieu Dubois, photographe de nature. Petite question, est-ce que tu travailles uniquement dans les Bauges ?
J'essaye de ne plus travailler qu'uniquement dans les Bauges, oui. Ouais.
Ah bon ?
Moi, j'aime bien l'idée de photo locale, en fait. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, quand je peux partir faire des images en partant de chez moi à pied, c'est ce qui convient mieux à ma démarche en général, en fait.
Écologique.
Écologique notamment, oui. Ouais, ouais.
Parce que une marmotte prise dans les Bauges ou en Vanoise, ça reste une marmotte, non ?
Ah, même pas tout à fait, parce qu'il y a quand même des spécialistes qui arrivent à voir que la marmotte des Bauges, elle est sur des rochers calcaires, alors que la marmotte vanoise, elle n'est pas sur du calcaire. Ouais. Ça fait partie des choses, en fait, que j'aimerais bien qu'on voit un petit peu plus dans les images qui sont faites dans les Bauges, en vanoise, et, ou en France notamment, parce qu'il y a plein d'espèces qui sont photographiées ailleurs qu'en France, et dont les images sont utilisées en France en faisant croire que c'est fait sur place. Ouais, ouais.
Ah bon ?
Oui, oui. Mais bon, voilà, il y a des gens qui sont spécialistes, il y a des gens qui sont habitués et puis qui savent faire la différence, mais la majeure partie des gens n'ont pas ce regard critique sur les images.
Il faudrait qu'il y ait marqué « photographie faite en France », alors.
Oui, ou alors simplement faire travailler de manière... faire travailler le plus possible des photographes locaux quand on utilise des images qui font la promotion locale.
Parce que ça doit quand même être plus facile d'aller prendre des photos dans une réserve naturelle ou dans un parc national, non ?
Dans une réserve naturelle et dans un parc national, par exemple, toute activité professionnelle est soumise à autorisation. Donc en fait, quand on est photographe professionnel, c'est pas du tout plus facile d'aller y faire des images. Il vaut mieux rester en périphérie et pas être obligé de demander cette autorisation-là. Ce qui n'est pas le cas justement sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges.
D'accord. Alors, pour repérer les animaux là, que tu veux prendre en photo, tu utilises quoi ? Les traces, les cris ? Comment tu procèdes pour repérer ?
Eh bien, c'est un mélange de tout ça, en fait, justement. Quand je suis dans un milieu et que je recherche une espèce, j'essaye d'utiliser tous mes sens pour pouvoir trouver cette espèce-là. Donc, c'est effectivement les traces au sol, principalement quand il y a de la neige, mais aussi quand le sol est humide. Les sons. Les mammifères font pas énormément de son, mais le cerf pendant qu'il brame, en tout cas, on l'entend de très loin.
Surtout en ce moment.
Pour les oiseaux, c'est principalement les sons. Et puis toujours en fait aussi avec les jumelles autour du cou et un système un peu comme une lunette en fait qui permet des fois d'être sur un sommet opposé et d'observer ce qui se passe en face.
Quel type de terrain ? Est-ce qu'il y a tel type de terrain qui correspond où tu sais que tu vas trouver tel type d'animal ou pas ?
Oui, par contre, c'est ma formation de naturaliste en fait qui m'a déjà dicté ça en premier. C'est-à-dire que dans certains milieux, on a très très peu de chances de rencontrer une espèce. Enfin, sur un milieu de pelouse, on a très peu de chances de rencontrer de la faune forestière, par exemple de la gelinotte ou des choses comme ça. À part cas exceptionnels, c'est pas possible.
Est-ce que tu as une formation naturaliste ?
Oui, en fait, j'ai un BTS en gestion et protection de la nature. Donc, je me suis intéressé à la nature avant d'essayer de faire des photos.
Et alors, petite question ça d'un amateur, mais comment fait-on pour approcher un animal sans être vu ?
Alors, justement, il y a des photographes qui font ça très bien. Moi, je sais pas bien approcher un animal sans être vu. C'est pour ça que je m'arrange toujours de monter un affût et d'être là avant qu'il arrive. Parce que l'approche, c'est une technique qui est quand même assez souvent dérangeante. En général, la plupart du temps, ça se termine par la fuite de l'animal. Et moi, en fait, je fais des affûts et j'essaye plutôt d'être sur place avant qu'il arrive. Ouais. C'est moi qui le vois arriver ou qui l'entends arriver et pas l'inverse, en fait.
Ouais.
Et j'ai des attitudes, du coup, qui sont bien plus naturelles parce que assez souvent, il repart sans même avoir vu ma présence, quoi.
Ouais. Et s'il t'a pas senti, quoi.
S'il me passe pas dans le dos, normalement, il m'a pas senti. Le but, c'est d'être toujours à bon vent. Avec une
parce
bonne lumière et un bon vent.
À la limite, une des qualités peut-être des photos, c'est de prendre la photo alors que l'animal ne sait pas qu'il est pris, ou on peut faire une belle photo bien qu'il soit sur le qui-vive, qu'il t'ait repéré.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui se vendent, donc qui sont de bonnes images, avec un animal qui regarde droit dans l'objectif. Moi, j'adore voir un animal qui ne regarde pas du tout dans l'objectif, qui va qu'à ses occupations et qui a une attitude vraiment naturelle. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus difficile à faire qu'un animal qui va au moins entendre le bruit, parce qu'il est quand même relativement proche, et regarder, pas forcément affolé, mais quand même intrigué par ce qui se passe, par le petit cliquetis qu'il entend.
Oui, alors justement, une question que je me posais, c'est un appareil spécifique pour ce genre de photo, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse de bruit au déclenchement, là.
Alors, il n'y a pas d'appareil spécifique qui existe en photo animalière. Par contre, en fait, j'utilise une housse anti-bruit, en fait, que je me suis au début bricolée, et puis j'ai amélioré une du commerce, en fait, qui permet d'étouffer les bruits du déclenchement, en fait.
Et l'hiver, alors donc moyen de locomotion, la raquette, je suppose ?
La raquette, le ski de rando alpine, quand ça monte très fort, et le ski de rando nordique aussi, notamment en forêt, quand il n'y a pas des descentes trop scabreuses à faire derrière.
Et il y a donc une hiérarchie quand même dans la difficulté de prendre les animaux quand même. Et par exemple, les oiseaux sont plus durs ou...
Il y a une hiérarchie, mais ce n'est pas particulièrement les oiseaux qui sont plus durs que les mammifères. Il y a des oiseaux qui sont plus simples, d'autres qui sont bien plus difficiles. Et il y a, comme pour les mammifères, il y a des mammifères qui sont faciles à photographier et d'autres qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles.
Ça, tu le sais. Tu sais que tel type d'animal est plus dur à prendre avec le métier.
Oui, avec l'habitude. Et puis, y a des oiseaux qu'on rencontre quasiment à tous les étages. Comme le rouge-gorge, je dois rencontrer quasiment un affût sur deux, que je sois en bas dans la plaine ou un peu en haut en altitude, du moment que je ne sors pas vraiment de la forêt. Je rencontre très, très régulièrement du rouge-gorge. Par contre, ce n'est pas le cas de la gélinotte, du tétralyre ou d'oiseaux qui ont des milieux de vie très spécifiques. Il y a une notion d'abondance aussi qui fait qu'il y a des oiseaux ou même des mammifères qui sont plus faciles à photographier que d'autres.
Par exemple, les bouquetins, les chamois, c'est pareil, même difficulté, ou il y en a qui sont... Les chamois sont...
Le bouquetin est beaucoup plus facile à photographier que le chamois du fait qu'il se laisse approcher très facilement. Ah. Ouais. Mais dans les Bauges, c'est pas possible de photographier du bouquetin, du moins peut-être pas encore.
Oui, parce qu'on on parle de réintroduction, je crois.
Je crois qu'il y a une étude qui est en cours.
Et alors, il y a des saisons plus propices que d'autres. Il y a des moments dans la journée plus propices que d'autres.
Alors, il y a des saisons qui sont plus propices que d'autres. Mais de toute façon, les animaux ont une activité qui est quand même toute l'année. Il y a la période des amours ou des périodes hivernales pendant lesquelles, par exemple, il y a beaucoup de repos. Mais disons qu'après, il y a aussi des saisons pendant lesquelles la lumière est plus jolie, l'environnement est plus joli que d'autres. Par exemple, pendant l'été, moi, je fais principalement que du paysage parce que déjà, il faut se lever très, très tôt, voire dormir sur place. Et les animaux sont... Les périodes où il fait très chaud l'été, les animaux sont actifs tôt le matin, tard le soir. Puis le reste du temps, en général, ils évitent de trop circuler. Ils ont peu d'activité. Et puis c'est là où la lumière est la plus dure en journée. Les journées sont longues, la lumière est la plus dure, donc pas la plus jolie en général.
L'automne est peut-être intéressant, non ?
L'automne est très très intéressant, oui, pour faire ce qu'on appelle dans ce cas-là des paysages animaliers, c'est-à-dire des vues assez larges avec un animal dans le cadre. Là, c'est la période la plus jolie.
Et je suppose que tu préfères être seul quand tu fais ça.
Et oui, en général. Le problème à deux, je ne suis pas très très bavard, mais à deux avec quelqu'un qui est intéressé soit par la photo, soit par la nature, soit un petit peu par les deux, on a toujours tendance à échanger un petit peu et souvent un petit peu trop. Ouais.
D'accord.
Mais bon, j'aime bien, enfin, je suis solitaire, mais de plus en plus, j'aime bien quand même partager ma passion et mon activité.
Alors, on parlait tout à l'heure de la saison de l'automne. Là, en ce moment, c'est le brame du cerf.
Ouais.
Tu as un endroit, toi, spécifique que tu connais qui est...
Eh bien, je commence à bien connaître, en fait, Mariette. Donc, c'est un endroit où je vais beaucoup. J'y vais tôt le matin parce que c'est vrai qu'après...
Tôt le matin, c'est quelle heure ?
En général, je suis en place entre 6h et 6h30. Ça me permet en fait d'avoir une bonne heure tranquille. Ce qu'il y a, c'est que je fais toujours un petit peu de bruit en arrivant et en m'installant. Donc après, ça me permet d'avoir une bonne heure tranquille en étant totalement silencieux, même sans déclencher si un animal se présente parce que la lumière n'est pas bonne. Et dans ce cas-là, en fait, ça me permet de pouvoir photographier un animal qui n'est pas conscient de ma présence en général.
Mais là, c'est la fin du brame, la fin de la journée, je veux dire. Parce qu'il attaque déjà à 9h le soir et il continue encore le matin aussi.
Eh bien, le cerf, quand il n'est pas dérangé, il peut bramer toute la journée, en fait.
Hein. Ah bon ?
Oui, oui. En fait, le brame, il est déclenché par une biche qui est en chaleur dans le secteur. Donc, en fait, c'est ce qui fait que le cerf, il est le plus actif. C'est pas du tout... Enfin, c'est moins la journée ou la nuit. Il brame la nuit ou la journée, lui, de manière naturelle, en fait. Hein.
Ah bon, moi, je croyais que c'était spécifiquement la nuit.
Eh bien, ça devient spécifiquement la nuit du fait du dérangement pendant la journée. En général, c'est comme ça que ça se passe, hein.
Mais t'as déjà pris une photo de cerfs qui se battent, par exemple
Et non, j'ai malheureusement... Enfin, je dis que j'ai pas pris de photo parce que j'en ai fait, mais qui était totalement flou. C'était un jour de pluie. Les cerfs sont presque pas reconnaissables tellement c'est flou. Ça me laisse un très, très bon souvenir, mais j'ai pas d'image de cerfs en train de se battre, non. Alors, elles seront sur mon ordinateur, je les montrerai pas parce qu'elles sont mauvaises.
Et alors, petite question, est-ce qu'on peut prendre des photos de nuit?
Alors, on peut prendre des photos de nuit, mais pas forcément l'image que je vais rechercher moi. C'est-à-dire qu'il y a des images documentaires qui sont faites de nuit, ouais, de plus en plus.
Just you and I. There's not a sound and there's not one sigh. Just the beat of my poor heart in the dark. Now in the dark his fingertips upon my lips, and he begs me, please be still in the dark. But soon this dance will be ending, and you're gonna be missed. Gee, but I'm not pretending, 'cause I swear it's fun to be kissed in the dark, in the dark. Now we go fine. Oh, but the rest, what the rest behind. Just let them dance, 'cause we're gonna find romance in the dark.
Nous retrouvons donc Mathieu Dubois. Est-ce qu'un jour il est arrivé que tu as semblé qu'il y avait un contact, une relation qui s'établissait entre toi et les animaux, ou alors aucune relation?
Il m'est arrivé une fois, alors c'était ni dans les Bauges ni dans le Vercors, il m'est arrivé une fois de nouer une relation avec un chevreuil, effectivement, qui s'était habitué à mon odeur. Alors après, bon, je portais toujours le même pantalon, toujours le même t-shirt. C'était en été pendant la période du rut. Et c'était un mâle qui, je pense qu'il avait l'habitude de voir passer du monde. Et en fait, j'étais toujours sous un filet de camouflage. Et puis un jour, il m'est passé dans le dos, donc il m'a senti. Et au lieu de partir en aboyant comme ferait n'importe quel chevreuil, il s'est approché. Il est repassé devant moi, donc j'ai retiré le filet très délicatement. Et en fait, j'ai continué à le photographier comme ça. Et je l'ai revu pendant 2-3 jours, en fait, à cet endroit-là. Ouais, ouais. J'en ai bien profité, pas forcément en photo, parce que la lumière était déjà souvent assez sombre. Mais par contre, voilà, c'était un rendez-vous que j'avais pris et je me suis vraiment fait plaisir avec cet animal-là.
Oh non, un instant privilégié.
Ça. Ah oui, un instant très privilégié. Après, je sais pas, je pense que c'est pas, voilà, c'est un peu contre nature, donc c'est pas forcément, faut pas forcément essayer de nouer ce genre de relation avec des animaux sauvages. Mais là, ça s'est présenté, je l'ai pris comme ça venait. Après, s'il y a des animaux avec lesquels je noue des relations, c'est justement parce que ils finissent avec l'habitude d'être à l'affût au même endroit sur des oiseaux, sur un couple de buses par exemple. C'était au contraire, c'était l'inverse. C'était ils savaient que j'étais là, j'étais proche, donc ils entendaient déclencher, mais par contre ils faisaient plus du tout attention à moi. C'est-à-dire que là ils vivaient comme si j'étais pas là. Et je pense que c'est plutôt ce type de relation là qu'il faut chercher avec la faune sauvage, plutôt que d'avoir une interaction qui est pas forcément toujours bénéfique pour l'animal. Elle peut l'être pour nous avec notre anthropomorphisme, mais anthropocentrisme même, mais pas pour l'animal, ouais.
Pour toi, quelle est la définition ou les critères d'une belle photo animalière ?
Techniquement,
oui.
Alors, c'est pas bien difficile. C'est un animal qui a été peu photographié dans une lumière qui le met vraiment en valeur. voir dans un paysage, enfin un environnement qu'il met en valeur et qui a une attitude ben, qu'il met en valeur aussi du fait qu'elle est assez elle est pas très connue ou parce qu'elle a été bien saisie au bon moment. Voilà, pour moi, c'est, techniquement, c'est une belle image. Après, c'est pas forcément celle qui me laissera le plus de souvenirs, mais...
De ce fait, finalement, tu positionnes ton affût en fonction de la lumière aussi, peut-être, non ?
Ah, en fait, quand je décide de faire un affût à un endroit, c'est parce que je sais que j'ai des chances d'avoir une belle lumière. Il y a plein d'endroits où je sais que je peux voir des animaux, mais soit c'est sur des versants exposés est, alors que c'est des animaux qui sortent le soir, ou l'inverse. Et dans ce cas-là, je fais pas d'affût, non, je pose pas d'affût. Oui, c'est la lumière qui fait l'image. Hein. Avant tout, hein, photographier, ça veut dire écrire avec la lumière. Donc, même en photographie animalière, il y a un tel niveau, en fait, au niveau des images qui sont produites, qu'il faut, enfin, la lumière est un élément déterminant. Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette démarche-là ?
Mais je crois que c'est justement un petit peu ça. C'est le fait d'avoir... Je suis curieux de nature, donc c'est le fait d'être obligé de... comme je dis souvent, je suis spécialiste de rien, mais j'aime bien toucher un peu à tout. C'est-à-dire que là, je touche à de la technique photo, je touche un petit peu à un aspect... si ce n'est artistique, du moins graphique, il faut être un peu multicasquette, et ça me plaît quand même. Je suis pas enfermé dans une activité très spécialisée où je fais tous les jours la même chose. Après...
T'as une formation photo, peut-être, quand même.
J'ai pas du tout de formation de photo, non. Mais, en fait, en photographie animalière, principalement, il faut avoir un œil, mais il faut pas... Le côté matériel est vraiment, vraiment secondaire.
Il y a beaucoup de photographes animaliers en France ?
Il y a beaucoup de photographes animaliers, il y a énormément de photographes animaliers. Par contre, il y a très très peu de personnes qui arrivent à en tirer un revenu substantiel. Ce qui n'est pas non plus tout à fait mon cas, en tout cas de moins en moins. Ce qui fait qu'en ce moment, en fait, je recherche une activité complémentaire qui me permet qui me permettrait de poursuivre celle-ci.
Alors, petite question aussi, est-ce qu'on peut bidouiller les photos ? Est-ce que, par exemple, toi, il t'arrive, pour rendre la photo plus belle, de changer, de modifier quelque chose ?
Alors, il peut m'arriver de modifier quelque chose sur une photo, mais ça va, dans ce cas-là, ça va toujours être à la demande d'un client. C'est-à-dire que moi, je présente mes images comme elles sont. Mais dernièrement, par exemple, ça m'est arrivé, j'avais une goutte d'eau qui était tombée, il pleuvait, qui était tombée sur mon objectif et ça se voyait sur l'image. Moi, j'ai présenté comme ça, le client m'a dit « Ah, ça me gêne un petit peu ». Bon, ben voilà, c'était assez simple, j'ai retiré la goutte d'eau. Ou sinon, des fois, c'est le client qui demande l'autorisation de le faire parce qu'il a un service de...
Toi, tu as toujours fait de la photo numérique ?
Ah non, j'ai commencé en diapositive.
Ouais. Parce que le numérique, pour vous c'est formidable, je suppose. Ça a multiplié d'abord le nombre de photos que vous pouvez faire en un peu de temps, et puis le fait de les modifier, non ? Ça a été une démarche formidable, non ?
Ben, ces modifications, elles se faisaient déjà sur de la diapositive à partir du moment où l'ordinateur s'est généralisé et où on pouvait numériser même soi-même les images, en fait. Donc, ces modifications-là, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'elles peuvent se faire. L'intérêt du numérique, c'est surtout le fait de pouvoir retourner... Enfin, c'est pas évident d'avoir l'opportunité de voir le même animal deux fois de suite, mais éventuellement de pouvoir retourner le lendemain en ayant regardé les images le soir même et s'être rendu compte qu'elles sont pas réussies.
C'est la rapidité de développement.
Ouais,
enfin,
c'est ça, c'est la possibilité, même éventuellement tout de suite, de pouvoir regarder sur l'écran arrière et de se dire « bah non, je me suis trompé sur telle ou telle chose et il faut que je la refasse ». Pas penser pendant... Avant, les diapositives, ça mettait quelques jours à développer. On s'imaginait qu'on avait fait une bonne image et quand la diapo arrivait, eh ben, en fait, on s'était raté sur un facteur. Et dans ce cas-là, ben, une semaine ou cinq jours après, c'est très difficile d'essayer de refaire une image.
Par exemple, en ce moment, tu fais combien de sorties, par exemple, dans une semaine ou dans le mois, je ne sais pas, je connais pas la fréquence.
Ben, ça dépend beaucoup de la météo, mais j'essaye de faire 3-4 sorties par semaine. Alors, pas forcément que des sorties photos, mais des sorties prospection en même temps, voilà. Ouais, 3-4, c'est une bonne semaine.
Et parmi toutes tes photos, est-ce que tu en as une que tu peux nous raconter qui tient à cœur particulièrement ?
Il y en a une, il y en a eu. Il y a une rencontre avec un animal qui s'est soldée par une ou deux images. On en parlait, c'est la rencontre avec deux loups dans le Vercors qui me sont passés à une trentaine de mètres, qui m'ont pas vu. J'étais pas tout à fait à côté de mon matériel photo, donc il a fallu que je retourne chercher mon matériel photo, et j'ai même dû siffler un coup pour qu'il y en ait un qui daigne tourner la tête et me regarder, et là je fasse une image qui moi me reste gravée. C'était la troisième fois que je rencontrais cet animal dans le Vercors, et j'avais jamais encore pu imaginer, je rêvais à peine pouvoir faire une image. L'image est pas exceptionnelle, mais voilà, c'est quand même une photo de loup en nature, et un loup sauvage. Moi, ça me laisse un bon souvenir.
Les chasseurs sont pas tes copains?
J'ai rien contre les chasseurs. Il m'arrive même de rencontrer des chasseurs très tôt le matin, des chasseurs de chamois notamment. Et j'avoue, je sens quand même qu'on partage une certaine vision de la nature. Mais c'est vrai que des fois, quand je suis au milieu d'une battue et qu'il faut que je sorte de l'affût en catastrophe pour me signaler ou pour me sauver, voilà, c'est moins, ça ouais, me fait moins rigoler.
En ce moment, c'est risqué, non? Si toi, t'es planqué et qu'il tire de... Non,
ah ben
enfin,
c'est dangereux.
Je trouve que mais... tu cours un risque, non? Non, faire un affût en ce moment en période de chasse, non?
Bah, je pense pas, parce que en général, de toute façon, quand j'entends des bruits qui me paraissent pas sauvages, soit je me signale, soit je me fais encore plus petit. Mais non, j'ai pas l'impression de courir des risques autant qu'un ramasseur de champignons ou un vététiste.
Quand t'es caché, quand même.
Puis il y a aussi quand même une chose, c'est qu'en général, à 8h, 8h30 du matin, c'est les horaires pendant lesquels en ce moment je sors d'affût, il n'y a encore pas trop de mouvement en forêt.
Est-ce que c'est une finalité? Tu fais des concours? Il existe des concours, des trophées, la plus belle photo animalière, non?
Il y a des concours. D'ailleurs, il y en a un qui va bientôt avoir lieu à Montier-en-Der, en Haute-Marne. En général, c'est des images de très 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 haut vol. Et moi, ça, j'y participe, mais juste plus comme ça pour dire de me faire connaître un petit peu. Et
ça veut dire quoi, très très haut vol? Ça veut dire quoi?
Malheureusement, justement, de plus en plus, par exemple, c'est des images d'espèces exotiques nordiques ou de pays du continent africain ou des choses comme ça. Oui. C'est ces images-là qui font, en tout cas, pas rêver les Français, mais qui font rêver le jury français.
Parce que toi, est-ce que tu penses que tu peux encore faire des progrès? Par exemple.
Ah bien sûr, oui.
Oui.
Heureusement.
De quelle manière alors?
Dans la lumière, dans les attitudes, ou sur des espèces que j'ai encore pas photographiées. Il y a quand même beaucoup d'espèces que j'ai pas photographiées, donc je vais peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, arriver à faire une image un petit peu documentaire, mais dont je voudrais une image artistiquement et graphiquement parfaite, quoi.
Il y a depuis combien de temps que tu fais des photos là?
Oh, ça doit faire une bonne quinzaine d'années.
Ouais. Alors, les photos que tu fais maintenant sont nettement plus belles que celles, par exemple, d'il y a 10 ans.
Ah oui. Avant, je cherchais à photographier un animal. Je cherchais pas à le photographier pour le mettre en valeur, en fait. Je voulais, au tout début, j'ai commencé pour photographier ce que je voyais simplement parce que je voulais qu'on me croie. Enfin, je voulais garder une trace de ce que j'avais observé. Aujourd'hui, non, je cherche vraiment à mettre l'animal en valeur dans son milieu.
Faire une photo artistique.
Moi, je dis graphique, artistique. Pour moi, le côté assez artistique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Je me mets pas à ce niveau-là, mais déjà graphique, enfin visuellement joli, quoi.
D'accord. Alors, pour finir l'émission, si des gens veulent acheter de tes photos, ils s'adressent où?
C'est d'aller sur le site donc que j'ai créé, www.bauchephoto.com, tout attaché, et vous avez une adresse mail pour m'envoyer, enfin c'est contact@bauchephoto.com pour m'envoyer un mail, et puis dans ce cas-là on discute.
Tu peux répéter le site un peu moins vite?
Alors www.bauchephoto.com, tout attaché.
Eh bien merci.
Eh bien merci à vous.
Amis de Radio Alto, bonsoir.
Les racines du futur, une émission pour écouter les Vosges.